Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Julie Amaï.
C'est parti ! Masseuse, geisha, tigresse, bridée, jaune, shintok. Les stéréotypes sur les personnes d'origine asiatique, en particulier les femmes, ont cours de manière parfois indifférenciée selon les pays. Celles-ci ne sont pourtant ni des tapis orientaux, ni des fleurs de lotus, ni des vases en porcelaine. Après l'affaire Yan Moix et ses déclarations sur ses préférences amoureuses dans le magazine Marie Claire, on s'interroge. Pourquoi faire passer un racisme fétichiste hérité des colonies pour un goût ? Mais d'abord, salut Julie.
Salut, bonne année.
Bonne année, ça va ?
Ça va super, l'année commence bien pour moi parce qu'on a sorti le numéro 9 du magazine Koi spécial Nouvel An Lunaire.
Ouais.
Avant on l'avait appelé Nouvel An Chinois comme on le dit habituellement, mais en fait c'est un Nouvel An qui est célébré un peu partout en Asie. Donc c'est bien de rappeler que c'est un Nouvel An Lunaire et sinon j'ai été super gâtée par le Père Noël et j'ai évité la crise de foie. Et toi ça va ?
Oui, ça va. Moi, j'ai ni évité la crise de foie, ni la grosse crève des familles du mois de janvier, comme ça s'entend, désolée. Mais pour revenir un petit peu à l'astrologie, est-ce que tu nous ferais pas un petit point horoscope du coup du nouvel an lunaire ?
Alors, donc là, on vient de finir l'année du chien de terre et nous passons à celle du cochon de terre dans la nuit du 4 au 5 février, pile pour mon anniversaire.
Ah.
Et le cochon est vu comme un animal bon et naïf.
C'est ça, c'est tout moi.
C'est toi ?
Oui.
Ah super. Et donc voilà, chaque personne, selon son signe, selon son année de naissance, aura plus ou moins des bonnes choses à venir ou non pendant cette année.
Ok. Mais en tout cas, la bonhomie du cochon devrait un peu aplanir les choses.
Peut-être, on essaie.
Ouais, pour revenir à l'actu aussi féministe, heureusement, il n'y a pas que Yan Moix, puisque, en tout cas du côté des news asiatiques, la comédienne Sandra Oh, qui est donc canadienne d'origine coréenne, a été la première actrice à remporter 2 Golden Globes. Donc après son rôle dans Grey's Anatomy, elle a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Killing Eve.
Oh my God !
Une série qu'on aime beaucoup, dont on a déjà parlé ici. Bon, maintenant, quand même, on va un petit peu revenir à la polémique qui nous a animés ces dernières semaines. Donc pour les personnes qui vivent dans une grotte, Yan Moix a donc déclaré à Marie-Claire deux choses. Donc qu'il n'aimait pas le corps des femmes de 50 ans, mais également qu'il ne sortait qu'avec des femmes asiatiques, en mettant un peu tout le monde dans le même sac, hein, parce que c'est grand l'Asie, donc il y a le choix. Et nous, c'est de ça qu'on voudrait parler cette semaine. Donc je vais citer sa déclaration. « Je ne sors qu'avec des Asiatiques, essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. » Je ne m'en vante pas. On est dans la vérité et dans la franchise. Beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer car on est dans le racialisme. Quel est ce mot ? Je ne connais pas. Le genre asiatique est suffisamment large, riche et infini pour que je n'en ai pas honte. Donc le genre asiatique, tu noteras,
ouais,
Julie.
C'est noté.
Donc voilà, il y a eu beaucoup de discussions, notamment sur est-ce que des goûts et des couleurs, on ne discute pas.
Dans tous les sens du terme, du coup.
C'est ça. Est-ce que ça se limite à j'aime ou j'aime pas, et est-ce que c'est une manière de couper court à tout débat, ou est-ce qu'au contraire, on peut déconstruire et avoir un point de vue critique sur un choix souvent esthétique et donc décoloniser ses goûts. Bon, lui a reconnu ensuite que c'était problématique, mais pour moi, c'était surtout le fait de le revendiquer en fait et de faire une déclaration publique que j'ai trouvé très gênant.
Parce que je m'aperçois qu'étant une sorte d'adolescent attardé, je n'ai pas accès à une partie de la vie qui en fait la richesse, qui est de quitter cette espèce d'obsession du vieillissement du corps pour en fait accepter toutes les formes de la vie possibles et un enrichissement qui ne soit plus réductible à un genre, puisque je dis aussi que j'aime beaucoup les Asiatiques, ni à un âge, mais un émerveillement, une aventure que je ne suis pas capable d'embrasser.
Est-ce que toi, tu en as discuté avec d'autres personnes de la communauté
Ah bah oui. complètement. Ça n'arrête pas, on ne parle presque que de ça. Ouais. Surtout entre femmes d'origine asiatique, ça nous a fait beaucoup réagir. Parce qu'en plus, les médias se sont vraiment intéressés à la première partie de l'interview où il parle des femmes de plus de 50 ans. Beaucoup d'articles ont été écrits dessus et un petit peu moins sur la partie où il dit ne s'intéresser qu'aux femmes asiatiques, principalement coréennes, japonaises, chinoises, adoptées.
Mais c'était tellement riche, en fait, cette déclaration.
Ouais. Et finalement, peu de médias ont repris, ont essayé d'analyser un petit peu cette partie-là. Il y a eu des articles moins bons et d'autres un peu meilleurs. D'ailleurs, on peut signaler celui de Pauline Verdusier, qui est paru dans Slate très très récemment et qui est assez complet.
Notre concert de Près de Meuf.
Bisous. Sinon, pour ma part, je n'ai pas été choquée par les propos d'Yann Moix. Déjà parce que je connaissais ce goût affirmé depuis très longtemps. J'ai été choquée par Marie-Claire, qu'un magazine féminin puisse donner autant d'espace à un homme alors que ce magazine devrait, à mon sens, donner plus la parole aux femmes. Ouais. Et puis pour répondre à ceux qui vont dire « Ah mais il y en a bien qui préfèrent les blondes ou les filles petites, etc. » Je pense que c'est pas la même chose. Déjà, c'est des personnes qui ont été racialisées, qui ont été colonisées, qui ont été dominées. Et voilà, il faut savoir aussi d'où vient ce goût. Est-ce qu'on trouve ça juste attrayant? Ou est-ce que finalement, ça nous donne une position dans le couple? Est-ce que ça projette sur l'autre un caractère, une manière de vivre, etc. Finalement, en fait, on a le droit de projeter ce qu'on veut en tant que fantasme, mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. Et la blogueuse militante antiraciste Grace Lee a publié une tribune dans Elle, où elle explique « Je suis une femme asiatique et je n'en peux plus des hommes qui sortent qu'avec des asiatiques. » Elle rappelle qu'être asiatique, ce n'est pas seulement un caractère physique, ce n'est pas seulement avoir les cheveux noirs, être pas très grande, etc. Mais que c'est également des stéréotypes qui sont affligés à ces personnes-là. Parce qu'elle est asiatique, on pense qu'elle partage la même culture que ses parents, par exemple, qu'elle est bonne en maths ou qu'elle sait faire des massages. Et elle s'est exprimée aussi dans Brut, on l'écoute.
J'étais exposée à ce qu'on appelle l'hypersexualisation des femmes asiatiques parce que je rappelais aux autres l'image d'une femme. Alors on me disait « tu es masseuse » ou bien « tu es prostituée »,« combien ça coûte ?» Il y avait cette image d'une femme asiatique qui était au service de l'homme.
Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord revenir un petit peu dans le passé pour savoir pourquoi est-ce que ça nous paraît totalement normal que, qu'on ait ce genre de déclaration, ce genre d'opinion aujourd'hui. Et en fait, cette fétichisation qui a l'air tout à fait indolore, elle a une histoire. En tout cas, en France, on a un passé colonial avec l'Asie, notamment via la colonisation en Indochine et la guerre d'Indochine. Il y a un historien, Michel Baudin, qui s'est penché là-dessus dans ses recherches, qui lui a étudié ce qu'il a appelé le plaisir du soldat français pendant la guerre d'Indochine. Donc c'est tout un programme réjouissant. Mmh. Et il explique qu'avant de découvrir les femmes d'Extrême-Orient, les soldats français étaient déjà habités par un imaginaire qui était plein d'exotisme colonial, puisque à ce moment-là, on est vraiment après l'orientalisme de la fin du 19e siècle, et que donc tous avaient en tête l'image de femmes, je cite, « perverses, sales et appâtées par le gain », qui avait été véhiculée par les romans et par le cinéma. Donc c'est des femmes en Indochine que les Français appelaient anamites, c'est-à-dire originaires du centre du Vietnam, que ce soit le cas ou pas, tout le monde était un peu mis dans le même sac. Et donc pour les soldats qui débarquaient là-bas et qui avaient donc recours très souvent à la prostitution, certains disaient, à propos des femmes, on avait envie de les aimer et les protéger. Donc pour l'historien, ça a été comme une sorte de coup de foudre pour, je cite, les filles aux yeux bridés. Et donc cette prostitution a eu notamment pour conséquence de développer énormément de maladies vénériennes dans les bataillons français. Bien fait, au point que l'armée française a carrément distribué un manuel à l'usage des combattants qui expliquait avec des petits dessins humoristiques tous les dangers de la femme indochinoise, comme si c'était pas le soldat aussi à la base le danger.
Faut se rappeler que la colonisation en Indochine date de la fin des années 1880 et que c'était finalement majoritairement des hommes français, jeunes, soldats ou fonctionnaires qui étaient envoyés. Donc ils partent seuls, ils partent pas en famille. Mmh. Et là-bas, ils dominent par leur race, par leur genre, par leur position sociale. Et ils sont face à des femmes autochtones qui sont soumises de fait parce qu'elles ne sont pas blanches, elles ne sont pas des hommes, elles ne sont pas
fonctionnaires. Elles ne sont pas combattantes.
Voilà.
Ouais. Et alors, aux États-Unis, on retrouve un petit peu le même phénomène. Bon, sauf qu'il y a eu la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Mais avant ça, il y a ce qu'on a appelé la fièvre jaune, ou yellow fever en anglais. Et c'est vrai que quand on voit des films, par exemple Full Metal Jacket, il y a des phrases racistes qui sont restées comme « Me love you long time », voilà, qui est une sorte de parler... petit nègre à la sauce asiatique.
Me love you long time. Me so horny. À la sauce aigre douce, du coup.
C'est ça. Et donc, il y a une prof d'histoire japonaise qui est l'autrice de Kingdom of Beauty, qui s'appelle Kim Brandt. Et elle, elle a expliqué qu'après les années 1840 et la fin de la première guerre de l'opium, les villes portuaires, donc en Chine, au Japon et en Corée, ont vraiment été prises d'assaut par les Occidentaux. Et que c'est à ce moment-là que les bourgeois ont commencé à collectionner des objets venus d'Asie, donc des éventails, des cartes postales, souvent sexuelles. Et qu'à l'époque victorienne, les gens ont été très fascinés par les geishas. Donc on rappelle, gay, c'est art, et sha, c'est personne. Donc c'est une femme qui n'est pas une prostituée, mais une artiste vraiment de haut niveau, en fait. Et donc elle écrit « La femme asiatique en costume traditionnel a été vue comme un objet décoratif et sexuel. »
Moi, justement, en parlant de geisha, je me souviens très bien du film « Mémoire d'une geisha » de Rob Marshall.
Ah, très grand cinéaste devant l'éternel. Non, je rigole.
Non, mais moi, j'ai adoré ce film quand j'étais petite, parce qu'il y avait une héroïne asiatique. Mmh. Ça se passe...
Bah, bon... C'est sûr, parce que l'offre était tellement limitée.
Oui,
que...
exactement. Du coup. Pour rappel, ça se passe au moment de la seconde... avant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Une fille jeune est arrachée à sa famille pour travailler dans une maison de geisha. Et sa beauté va faire d'elle une geisha très, très réputée qui fascine les hommes. Là, la femme passe de petit objet docile et mignon à professionnel de la séduction et du sexe.
Concentre-toi sur tes études, la musique, l'art de la conversation. Maintenant, nous sommes rivales. Une vraie geisha est capable d'arrêter net un homme d'un seul regard.
Et c'est vraiment ces clichés-là qui sont renvoyés aux femmes asiatiques. C'est ou la petite fille gentille et mignonne, mais qui, derrière, est avide de sexe, ou en tout cas très douée dans ce domaine-là.
Ouais. J'avoue que j'ai connaissance de l'existence de ce film, mais je ne l'ai jamais vu, car je l'ai soupçonné de n'être pas très bon. Mais...
je crois que je l'ai en DVD.
Ouais, tu feras tourner. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tout ça, ça ramène à la définition de l'orientalisme tel qu'il a été théorisé par l'universitaire Édouard Saïd en 1978. Lui explique que c'est vraiment une vision très binaire du monde et une projection souvent de l'Occident sur l'Orient qui est vraiment héritée du 19e siècle. Et comme c'est des stéréotypes qui ont toujours cours aujourd'hui, en fait, on sait qu'ils ont un effet très concret et qu'ils peuvent être dangereux pour les personnes, puisqu'aux États-Unis, 61% des femmes asiatiques disent qu'elles auraient eu une expérience de violence physique et ou sexuelle avec un conjoint. Donc voilà.
Ouais, c'est peut-être aussi pour ça que à la marche des femmes, l'actrice Constance Wu, dont on a déjà parlé ensemble, a dit défiler pour toutes les femmes asiatiques américaines, Asian American, qui ont été ignorées, jugées ou fétichisées.
Et d'ailleurs, il y a un exemple très parlant de ça. C'est un fait divers qui a été reporté un peu partout en 2015. Donc Miya Matsumiya, qui est une violoniste d'origine japonaise installée à Los Angeles, a raconté comment elle a été harcelée sur son blog et sur des sites de rencontres, comment elle a reçu des menaces de viol et de mort. En fait, elle a collectionné tous ces messages pendant 10 ans et un jour, elle a tout balancé sur son compte Instagram qui s'appelle Perv Magnet. Donc, il y a des messages vraiment gratinés du style « Tu es grassouillette des bras, tu as besoin de maigrir. Mais encore, ton petit corps mince m'excite. » Ou encore « Salut, tu es très mignonne et sexy. Donc, tu aimes le sexe. »
Donc
ouais, voilà, c'est le lien de cause à effet tout à fait évident. Y a encore un autre fan très épris d'elle qui lui a écrit des fanfictions. Et donc, il s'imaginait, par exemple, venir à ses concerts, puis la violer dans les toilettes. Donc voilà, elle dit que faire 1m49, être asiatique, américaine, et être musicienne, ça a été vraiment la combinaison gagnante en termes de harcèlement. Et que ça a attiré une source de comportement, de prédation absolument inacceptable.
Ouais, franchement, c'est terrible de lire ça, d'entendre ça. Justement, pour tout ce qui est fétichisme, on peut rappeler que dans le top 25 des termes les plus recherchés sur le site anglais Pornhub
donc
en
le
2017,
site de porno, ouais.
On retrouve Asian, Hentai, Japanese, Korean and Chinese. En comparaison, seul le terme Ebony se retrouve dans ce classement pour distinguer une autre catégorie ethnique.
Et c'est quoi Hentai ?
C'est le manga porno japonais, d'accord, pour faire simple.
Ok.
Aux États-Unis, la comédienne Christina Wong a fait un édito et elle disait, donc ça c'est ce qui se passe aux États-Unis, « Avant, les mecs blancs avec un fétiche étaient faciles à repérer, des parias pathétiques qui organisaient leurs vacances à grand renfort de tourisme sexuel en Thaïlande ou qui rôdaient autour des cours de japonais.
Miam, miam.
Maintenant, les asiaphiles sont des hipsters attirants et tatoués qu'on rencontre par des amis d'amis. »
Méfiez-vous, le loup est dans la bergerie, ouais.
Et elle a fait une série en ligne qui est assez chouette, I'm Asian American and, trois petits points, qui détourne tous ces stéréotypes, c'est assez drôle.
For years, I've been stalked by yellow fever guys asking me where am I from and asking me if I'm submissive in bed and in life.
Elle reprend ce à quoi elle est confrontée la plupart du temps, elle et les autres femmes asiatiques du coup, avec la phrase classique oh, salut, j'adore les Asiatiques. Mais ça, mais le nombre de fois où on a pu me le sortir à moi ou à des amis, mais c'est incroyable. Enfin, c'est bien que ça sorte, que ouais, le public entende ça, tu vois.
Bah, comme si nous, on nous disait, j'adore les Européens. T'es là, mais en fait, il y a plein de pays différents. En plus.
Genre, mais oui,
ça
ou n'a rien celui à voir qui avec te dit, ni hao ma, non mec, je suis pas chinoise.
Ouais, bah oui.
Ou même si je suis chinoise, je parle pas mandarin, je parle cantonais, tu vois. Donc,
rien à voir.
Voilà, elle reprend tout ça et c'est assez chouette.
Ouais, j'ai vu qu'au début de la série... elle mange des dim sum avec un gars et en fait elle fait exprès de manger très très salement, de lui en mettre sur la tête et tout, et lui il est trop choqué, genre mais ce n'est pas la petite femme docile que je pensais.
Mais normalement vous n'êtes pas comme ça vous.
C'est ça. Et alors dans le secteur de la beauté aussi, je trouve qu'il y a pas mal de stéréotypes sur les femmes asiatiques, surtout qu'en ce moment les produits de beauté coréens sont vraiment en plein boom, j'avoue moi-même y avoir cédé compulsivement sur internet. Bon, même si c'est souvent des produits qui incitent à se blanchir la peau, donc c'est parfois pas terrible. Mais en tout cas, c'est un secteur qui reste quand même très blanc. Y compris chez des grandes marques comme Revlon et autres qui se sont intéressées tardivement à la diversité asiatique, mais on a l'impression que c'est surtout une manière très stratégique d'investir le marché chinois qui est en plein développement et donc de faire un peu de l'œil de ce côté-là.
Ouais, justement, si ces marques-là s'y intéressent, c'est pour conquérir le marché chinois. Rarement les marques internationales, américaines ou françaises vont s'intéresser à ces populations-là pour répondre à la population d'origine asiatique dans leur pays. Mais c'est juste dans une logique économique d'aller conquérir le marché chinois.
Oui, d'ailleurs, on voit bien que ces produits, souvent, ne correspondent pas du tout à la complexion ou à la couleur de peau de certaines personnes d'origine asiatique qui cherchent des produits de beauté et donc qui veulent se mettre du blush et en fait, c'est pas du tout les bonnes couleurs ou autres. Voilà, c'est vrai que nous, en tout cas, parmi les mannequins asiatiques qu'on voit, elles sont souvent choisies avec les mêmes traits, donc les cheveux longs, raides, l'œil de biche et la peau très pâle.
Elles sont aussi très très grandes.
Voilà, donc il y a très peu de diversité parmi ces modèles-là. Et alors, du côté de notre expérience personnelle, toi d'abord, puisque tu es plus concernée que moi.
Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, je leur précise, je suis eurasienne, donc ça ne se voit pas beaucoup que j'ai des origines asiatiques. Je ne pense pas
avoir... Mais assez pour qu'on te dise ni hao dans la rue.
Ouais. Je ne pense pas avoir été fétichisée, déjà parce que, avec mon physique, c'est pas évident. Et aussi parce que j'ai peut-être pas été sensible à la drague des fétichistes. Peut-être que... Pour moi, le mec qui me dit ni hao, j'adore les Asiatiques, je le prends pas pour de la drague. Je me dis, je zappe tout de suite, c'est next, quoi.
Ouais. Non, mais t'es pas assez typée, laisse tomber.
Ouais.
Désolée.
Mince. Par contre, je connais pas mal d'hommes qui sont fans de femmes asiatiques, qui ne cherchent que des Asiatiques pour leur exotisme, pour tous les a priori qu'ils peuvent avoir, mais qui sont parfois aussi très bienveillants dans leur démarche.
Racisme bienveillant.
Oh, j'ai envie de découvrir une autre culture, ça m'intéresse.
Oui.
En plus,
va au restaurant.
j'ai envie que tes parents m'apprennent à faire la cuisine. J'ai toujours été attirée par le bouddhisme. Enfin voilà, d'ailleurs, ce fétichisme existe, il faut le rappeler aussi, pour d'autres femmes, les femmes noires, les femmes arabes, les femmes d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, tiens, concours de circonstances, c'est les mêmes catégories qu'on retrouve sur les sites porno. Oui. Black, beurette, latina, asian. Mm. C'est fou, non?
Ouais, quel hasard. Alors moi, de mon côté, voilà, je ne suis pas du tout concernée par ce problème-là, et j'ai de la chance. Mais j'ai pu y assister, notamment parce que je me souviens qu'un jour, on a offert à mon père un massage dans un salon de massage asiatique très correct. Hein, et il a refusé d'y aller, en fait, en soupçonnant que c'était suspect. Donc je ne sais pas ce qu'il pensait.
Il pensait que c'était les salons de massage avec...
Voilà. Il y a salon de massage et salon de massage.
Ouais.
Voilà, comme si on lui avait offert ça pour son anniversaire. Et puis comme si...
De la part de ses enfants,
ouais,
quand même.
C'est quand même sympa. Non, mais puis surtout, ça jette une espèce de suspicion sur toutes les femmes asiatiques forcément lascives et qui te courent après pour te sauter sur la bite. Coucou, papa. Et de mon côté, j'ai aussi un peu assisté à ça quand j'ai été touriste blanche en Thaïlande, puisque... comme toute touriste stupide, j'ai pris un cours de cuisine thaï. Et donc, je me suis retrouvée avec un Américain et une personne qui était, j'imaginais, sa conjointe. Mais en fait, non, c'était une prostituée qu'il avait embauchée pour la journée pour l'accompagner à ce cours de cuisine. Donc voilà, c'était un peu spécial. Et quand j'ai été au Japon, aussi à Kyoto, il y a beaucoup de panneaux dans la rue qui disent « Ne touchez pas les geishas ». Alors que bon, ça devrait être quand même évident puisque ce sont des personnes, on le rappelle.
Ne touche pas les gens dans la rue.
Ouais, c'est ça. En fait, on n'est pas au zoo. Donc voilà, on voit bien aussi comment le tourisme peut fétichiser et objectifier, exoticiser les personnes d'origine asiatique, y compris quand elles sont dans leur propre pays. Voilà.
Alors, je crois que c'est le moment où on écoute le témoignage de Lin Lan.
Je suis sortie avec un fétichiste des Asiatiques. C'était mon deuxième copain. J'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais très très jeune et un peu ignorante, je dois le dire, et naïve. Il avait demandé à une de mes amies qu'on avait en commun « Est-ce que tu connaîtrais pas une Asiatique ?» Donc elle se méfie pas, elle dit « Bah oui, j'en connais une, elle s'appelle Lin Lan. » Et il a voulu qu'elle lui arrange un coup. Donc il lui a dit « Ouais, Lin Lan, j'ai hâte de la rencontrer. » Donc il se faisait déjà des films sur moi avant de me connaître. Et je l'ai trouvé très mignon, plutôt sympa. Et il y a plusieurs détails finalement qui m'ont mis mal à l'aise dans cette relation. Déjà, en arrivant dans sa chambre, je vois un énorme poster de Marjolaine Buy. Donc à l'époque, elle était candidate où elle venait de faire une télé-réalité, Greg le millionnaire. Donc hyper sexy. Donc sur le poster, elle était quasiment dénudée, quasiment à poil. Elle avait la bouche entrouverte, ça m'a pas trop plu, mais je me suis dit, bon, écoute, toi, t'as bien des posters de tes chanteurs ou acteurs de séries préférées, c'est pas grave, c'est normal. Il était aussi fan d'Alyssa Milano, donc j'ai pas percuté. Quand il m'écrivait des textos, il signait... il m'appelait ma fleur d'Asie. Et mon ex, mon premier copain, il avait jamais fait ça, il m'appelait Lin Lan, mais lui, c'était ma fleur d'Asie. Et t'as l'impression qu'il t'appelle comme un nom de restaurant, ma tour de jade, ou vous savez, les noms de restaurants un petit peu clichés, un petit peu kitsch. Pourquoi pas mon rouleau de printemps pendant qu'on y est. Là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème, sans pour autant me dire que j'étais avec un fétichiste des Asiatiques, c'est quand il m'a fait essayer des lunettes de soleil, de grandes lunettes de soleil carrées avec des verres un peu fumés. Et je me suis rendu compte, j'ai essayé, je me suis dit, putain... là, je ressemble à Marjolaine. Et en fait, effectivement, c'était un accessoire que portait souvent Marjolaine. Donc, j'avais l'impression que j'étais sa petite poupée et qu'il allait me déguiser en Marjolaine pour que je corresponde à son fantasme. Et jusque-là, c'est vrai que je m'habillais plus sexy, je me maquillais, je faisais tout ça pour lui. On a couché ensemble. Et puis, tout de suite après, il a rompu. Et là où mon monde s'est un peu effondré, c'est que j'ai appris qu'il s'était mis avec une autre Asiatique. Et qu'en fait, il sortait que avec des Asiatiques, il était attiré que par ça. Et ça, je l'ai su par le biais d'autres personnes. Hein. C'est pas lui qui me l'a dit. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais été avec un fétichiste qui m'avait considéré un petit peu comme son objet, en fait, comme sa petite poupée. Aujourd'hui, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, il est avec une mariée avec une nana qui est pas du tout asiatique. Donc tant mieux, ça veut dire qu'on peut se remettre, de la yellow fever, comme on dit. Mais voilà, c'est une expérience fondatrice qui a été assez marquante pour moi, pour que à chaque fois que je rencontre un homme et que j'envisage quelque chose, j'ai envie de savoir si le mec est fétichiste ou pas. Bah, normalement, ça se voit un peu à 10 000 km parce qu'il va te demander d'où tu viens, quelles sont tes origines, il va te baratiner sur l'Asie. Et il va te demander peut-être si tu aimes faire la cuisine, machin. Enfin, bref, il va vachement te renvoyer à tes origines. Moi, je vais chercher à savoir, par exemple, si le mec, il a eu des nanasiates par le passé, combien il en a eu. Enfin, c'est dingue hein, de faire cette inspection de police, mais t'as envie d'être sûr que le mec te choisit, non pas parce que tu as les yeux bridés, non pas parce qu'il t'imagine soumise, gentille, etc. Enfin, sans qu'il ait des clichés qui vont avec l'image de la femme asiatique. Tu as envie d'être prise pour un être humain.
Merci beaucoup pour ton témoignage, super intime et intéressant. Je pense que ça fera réfléchir pas mal de personnes, femmes ou hommes, sur ce sujet, quand on voit que ça touche autant dans l'intimité.
Et alors, est-ce qu'on a des conseils de choses à faire, à ne pas faire ou à lire ?
Ah oui, à lire, oui, bien sûr. Il y a le livre de Grace Lee, Jeune fille modèle, qui est sorti aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'une jeune fille française d'origine chinoise qui a grandi dans le 13e, dans le restaurant familial. Donc là, on est dans le cliché total, mais en fait, ce livre va casser tous ces stéréotypes. Grace Lee revient un petit peu dessus sur l'idée de cette femme interchangeable où sortir avec des Asiatiques, c'est un peu sortir avec n'importe laquelle. Mmh. Alors que finalement, il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils représente. On peut être curieux d'une autre culture, mais il faut faire attention à ce que la personne en face soit aimée pour son originalité et son unicité.
Mmh. Alors moi, comme conseil, ce que je pourrais donner, je pense que c'est toujours bon à prendre, même si Halloween est déjà passé. Parce que Carnaval arrive bientôt, ne l'oublions pas, avec son lot de déguisements moisis. Donc on évite les yellow face. Donc,
coucou Gad Elmaleh, Kev Adams.
C'est ça, donc on ne se déguise pas en Bruce Lee ou en Lucy Liu, si on peut l'éviter, car de nombreux autres déguisements existent. Moi je voulais rappeler un petit peu aussi qu'au sein du mouvement féministe, puisqu'on en fait partie, les femmes asiatiques sont parfois moins visibles que les femmes blanches, ça c'est sûr, mais aussi que certaines femmes racisées, donc femmes latinas ou femmes noires. Et en tout cas, aux États-Unis, on peut regarder ce que fait le Asian American Feminist Collective, qui est dirigé par Julie A. Kim, puisqu'elle dit justement qu'en fait, il y a une conception assez répandue qui veut que les femmes américaines d'origine asiatique n'auraient pas besoin du féminisme. Donc elle dit, si, en fait, on en a besoin comme tout le monde, et justement parce qu'on est victime de discrimination très spécifique. Donc c'est bien. Et pour la France, je vous invite aussi à regarder ce que fait le collectif des femmes chinoises prostituées de Belleville, puisque c'est des personnes qu'on voit peu et qu'on entend peu, mais qui ont des choses à dire. Voilà.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Et alors Clémentine, côté pop culture, qu'est-ce que tu as à repérer ?
Alors déjà, côté vieille culture, bien rance, il y a un roman qu'on lit plus trop aujourd'hui, qui s'appelle Madame Chrysanthème, qui est un roman de Pierre Loti, publié en 1887.
Mais une vraie référence pour le sujet.
Ouais, qui parle d'un officier de marine qui voyage à Nagasaki et qui, sur place, va prendre une épouse temporaire. Une épouse japonaise qui va ensuite bazarder. C'est un récit qui a eu énormément de succès à l'époque et qui a vraiment contribué à former les perceptions européennes du Japon en France, dans une version très homogénéisée, très ornementale, que Puccini a ensuite repris et en l'adaptant à l'opéra. Donc c'est Madame Butterfly, un opéra qui se joue encore un peu partout dans le monde. Qui raconte plus ou moins la même histoire, tout en ajoutant quand même à la fin le sacrifice de la femme japonaise. C'est un peu la cerise sur le gâteau.
Moi j'ai repéré le livre « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka, qui raconte l'histoire de femmes japonaises qui ont épousé des soldats japonais ou américains et qui quittent le Japon pour les rejoindre aux États-Unis. C'est un petit peu avant Pearl Harbor. Et Julie Otsuka revient sur leurs conditions de vie et de travail, sur les viols, les grossesses, l'entraide ou non entre les femmes, et ensuite leur détention dans des camps de concentration aux États-Unis. C'est une partie de l'histoire qu'on connaît très peu.
Ah ouais, j'en avais jamais entendu parler. Je ne suis pas surprise pour autant, mais... Et alors, dans le cinéma, y compris venu d'Asie, il y a toute une série aussi de stéréotypes. Il y a l'universitaire Raphaël Moine qui a écrit un livre sur les femmes d'action, qui explique qu'en Chine, au cinéma, donc y compris il y a une cinquantaine d'années, on trouvait surtout des femmes dans un genre qui s'appelle, je prononce très mal, le wuxia pian, donc qui est le genre du film de sabre, plutôt que dans le film de kung-fu, qui est au contraire focalisé sur les rapports maître-élève, donc la transmission entre couilles, si je puis dire.
Ouais, gros.
Et c'est vrai que ça, c'est une tradition qui continue aujourd'hui, puisque le genre des arts martiaux, c'est quelque chose qu'on attribue aussi facilement aux femmes au cinéma, puisque c'est souvent très chorégraphié. Et donc, c'est un style qui a été adapté et décliné à l'international, par exemple dans le film Kill Bill de Tarantino. Mais malheureusement, c'est souvent pour donner une touche exotique qui érotise les personnages. Voilà.
Et en parlant d'érotisation, si on revenait sur le cas Marjolaine...
Moi, j'ai absolument pas suivi cette affaire, j'ai honte, mais explique-moi.
C'est vrai, alors en 2003, il y a la télé-réalité qui s'appelle Greg le millionnaire.
Un garçon simple, il vit grâce à des chantiers et des petits boulots. À la recherche de l'amour, il rêve d'une vie meilleure. Quand soudain, il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante.
C'est l'histoire d'un beau gosse pété de thunes qui cherche une meuf. Mmh. Et donc, il y a des prétendantes. Parmi ces prétendantes, on retrouve Marjolaine, qui est une jeune française d'origine asiatique et qui est très, très, très sexualisée dans cette télé-réalité. Je pense qu'elle en a joué. Ouais. D'ailleurs, elle a sorti une chanson quelques mois après qui s'appelle Geisha.
Ok.
Alors qu'elle n'est pas japonaise et qu'elle portait dans le clip des tenues chinoises.
Ok.
Donc voilà, je pense qu'elle a joué de ce truc-là, mais c'est vrai que c'est une image assez commune en France quand on parle d'asiatiques connus ou de femmes sexualisées. Le nom Marjolaine ressort régulièrement.
Ça sème vraiment la confusion entre toutes les cultures, là, pour le coup.
Complètement.
Et alors moi, parmi les femmes d'origine asiatique vraiment les plus détestées de la planète, je pense qu'on ne peut pas se passer de parler de Yoko Ono dans la musique, puisque... Enfin, elle a vraiment sa présence a vraiment déchaîné, je trouve, la haine des fans des Beatles à l'époque, puisqu'elle a vraiment été représentée comme la femme dragon, la prédatrice étrangère, méchante, qui a été responsable de la séparation des Beatles parce qu'elle se serait immiscée dans leur amitié masculine. Alors qu'en fait, bah trop pas. Enfin, déjà ils s'entendaient plus avant qu'elle arrive. Donc merci de pas tout lui mettre sur le dos.
Je tiens d'ailleurs, en parlant de ça, je pense à Bambou, la dernière femme de Serge Gainsbourg,
bah oui,
d'origine chinoise, et qui n'a pas été très 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 aimée, contrairement à Jane Birkin, où tout le monde disait « Oh, c'était ces belles années
ouais. ».
Voilà, ouais, c'est aussi un autre exemple.
Bon, après, on retrouve aussi des stéréotypes bien rances dans des bonnes comédies américaines, par exemple « Wedding Crashers », où le comédien Vince Vaughn, après être sorti avec une fille à un mariage, s'écrit plein d'entrain. C'était ma première Asiate.
That was my first Asian.
Voilà, donc ça fait plaisir. Y a aussi la comédienne Amy Schumer qui a fait un sketch dans son spectacle qui s'appelle Mostly Sexy Stuff, où elle évoque ces stéréotypes. Je ne sais pas très bien si c'est avec une bonne distance critique. Mais en tout cas, elle se plaint que les femmes asiatiques aient toujours les cheveux parfaitement luisants, le rire modeste et de tout petits vagins.
It doesn't matter what you do, ladies. Every guy is gonna leave you for an Asian woman. They're smarter. They laugh like this because they know men hate when women speak. And how do they bring it on home for the win? Oh, the smallest vaginas in the game.
Voilà, un super, super stéréotype.
Je me demande quelle étude elle a fait pour savoir que les femmes asiatiques aient des petits vagins.
Ouais, bah,
ça, écoute, vraiment, tu vois, c'est un stéréotype.
C'est basé sur des faits scientifiques, apparemment, oui, prouvés.
Voilà, moi, j'aimerais savoir, en fait, qui a réalisé cette étude, sur quoi il s'est basé, combien de femmes.
Ouais. Écoute, moi, j'avais jamais entendu ça, personnellement, mais ça a l'air très répandu, et surtout, ça a l'air d'être une sorte d'argument de vente pour une partie de la population, donc c'est intéressant. Et plus proche de chez nous, pour les personnes qui, comme moi, sont vieilles et aiment jouer à des jeux de société, il y a quand même les mystères de Pékin.
Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés. Bref, mon enquête piétinait. Seul le sage pouvait m'aider.
Je sais pas si tu
as. J'adorais.
Bon, bah, moi aussi j'adorais, mais en fait j'y ai joué récemment.
Et donc, mais tu t'es dit, il y a peut-être un problème en fait.
Il y a peut-être un souci. Et donc les personnages s'appellent, je suis obligée de faire avec un accent horrible, puisque voilà, c'est écrit comme ça, Madame Diamang, Ri Halo, et le pire, Chang Pabong, parce qu'il est poissonnier, et du coup, il Chang Pabong, voilà.
Je crois que je viens de comprendre pour la première fois
de ma vie. Compris la vanne. En fait, je suis tombée sur Internet, sur un forum qui date de 2017 et qui demandait déjà à ce moment-là à ce que le jeu soit mis à jour. Donc, est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas, mais...
Work in progress.
Écoutez notre appel, parce que là, ça devient vraiment... c'est un peu désespérant, là, en 2019.
Mais non, il y a des trucs cool, comme Fresh Off the Boat, la série télé, ou encore le film Crazy Rich Asian, dont on a parlé ensemble, avec Constance Wu, qui a fait la couve du Times. Donc, les choses bougent doucement.
C'est vrai.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Et alors, est-ce qu'on a une recommandation culturelle cette semaine ?
Alors, pour ceux qui ont la flemme de lire le livre, certaines n'avaient jamais vu La Mer. Là, en fait, il a été adapté en pièce de théâtre par Richard Brunel. Le spectacle a été montré à Avignon l'an dernier, où j'ai pu le découvrir. Il est passé à Ivry, à Valence, et il sera au théâtre de Dijon-Bourgogne du 13 au 15 mars. Et mon petit doigt me dit que d'autres dates sont en cours un petit peu partout en France. C'est une très belle pièce. Il y a beaucoup de femmes d'origine asiatique ou non sur scène. C'est très très beau et ça permet de découvrir un pan de l'histoire qu'on ne connaissait pas.
Bourguignon, bourguignonne, vous savez quoi faire au mois de mars.
Et toi alors?
Moi, je voudrais recommander un livre qui est sorti en 2018, dont on a pas mal parlé, puisque c'est le prix Médicis étranger. C'est le Mars Club de Rachel Kushner, qui est paru aux éditions Stock. En fait, c'est une écrivaine, une autrice américaine qui avait déjà écrit Les Lanceurs de Flammes, un bouquin qui a eu pas mal de succès et qui devrait normalement être adapté au cinéma par Jane Campion. Bon, on attend toujours. Ça parlait d'une motarde à New York dans les années 70. Et là, le Mars Club, c'est un livre qui s'intéresse aux femmes en prison, en fait, à travers donc le parcours d'une jeune stripteaseuse entre Los Angeles et San Francisco, qui est en fait harcelée par un client de son club de striptease et qui finit par le tuer. Voilà, à force d'être harcelée, elle est envoyée en prison puisque tous les dés sont pipés contre elle. En fait, c'est vraiment le portrait d'un prolétariat féminin qui rappelle forcément la série Orange is the New Black, puisqu'il y a toute une galerie de personnages bien trash. Il y a une ancienne mannequin de collant qui vivote dans le couloir de la mort. Il y a une femme trans qu'on met dans la mauvaise prison. Il y a une mère infanticide, une fille mère qui accouche carrément dans les couloirs de la prison par terre. Voilà, donc c'est très sombre et la presse a pas mal comparé le livre par exemple à Charles Bukowski, parce que toute l'action se passe vraiment confinée entre quatre murs, entre la prison et le club de striptease. Voilà, mais moi je vous le conseille, je trouve ça très très intéressant.
Allô,
monsieur l'ordinateur,
Quoi de Meuf vous écoute.
Alors, on a reçu du courrier de nos lectrices. Inès nous dit « Ma mère ne veut pas que j'utilise la cup car elle pense que c'est plus dangereux que les tampons. » Qu'est-ce qu'on lui répond ?
Fake news, Inès. Non, mais effectivement, il y a eu plein d'articles à ce sujet l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, pour rappel, le syndrome du choc toxique, puisque c'est de ça dont on parle, il faut savoir que certaines femmes sont porteuses donc, d'un staphylocoque doré, qui est une bactérie qui est normalement pas dangereuse, mais parfois, porter un tampon de manière prolongée, ça peut la bloquer au niveau du vagin. Donc, dans ce cas-là, elle se multiplie et ça produit des toxines qui sont dangereuses. Mais c'est pas le tampon en tant que tel qui est responsable du syndrome, c'est vraiment le fait d'avoir ce staphylocoque doré à la base. Et donc pourquoi ces fake news se sont répandues ? Parce qu'il y a en fait eu une étude en 2017 menée par les Hospices Civils de Lyon disant que les coupes menstruelles seraient plus favorables à la croissance du staphylocoque, donc à l'origine de ce choc toxique. Et en fait, il y a eu toute une cacophonie et un rétropédalage à la suite de la publication de cette étude et d'articles assez alarmistes. Puisque les Hospices de Lyon, finalement, ont dit que c'était, je cite, une erreur de communication et une mauvaise lecture de l'étude. Et donc, les chercheurs ont été très rassurants en disant que la coupe menstruelle n'était pas plus dangereuse que les tampons. enfin en tout cas dans le cadre du syndrome de choc toxique, et qu'aucun dispositif ne stimulait la production de la toxine responsable du syndrome. Donc voilà, profitez tous et toutes de votre cup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court.
N'hésitez pas à commenter cet épisode, à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes un homme et vous aimez les femmes asiatiques, dites-le nous.
Dites-nous si vous avez changé d'avis.
Vous êtes une femme et vous avez été fétichisée, dites-le nous. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est de confronter les points de vue et puis de découvrir de nouvelles choses.
Merci, salut Julie.
Salut.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour un épisode court sur une œuvre culturelle et avec une nouvelle chroniqueuse. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description de l'épisode, nous retrouver dans la newsletter tous les dimanches et sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous écrire à hello@quadmeuf.net. Quadmeuf est une émission de Clémentine Gallo, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Charles de Cilia, au montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard.